Oui, monsieur Prud'homme, moi je défends Sainte-Soline. Et puis je l'assume en plus, mais bien comme il faut. Parce que je pense que c'est un sentiment injuste qui a été créé aux agriculteurs, parce qu'on passe de 18 millions de mètres cubes à 12 millions de prélevés, de 18 millions de mètres cubes prélevés l'été à 6 millions de mètres cubes prélevés l'été, et que je pense que c'est mieux.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copanado!
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. Bonsoir, nous venons d'entendre en prélude Marc Fesneau qui répondait à une intervention de Loïc Prud'homme, député de la Gironde, dans le cadre donc du débat sur la fameuse loi d'orientation agricole. Loïc Prud'homme interpellait le ministre de l'Agriculture sur la confusion faite dans le projet de loi entre méga-bassines et retenues collinaires pour masquer en fait le fait que les premières se remplissent en pompant dans les nappes phréatiques, contrairement aux secondes, qui se remplissent avec de l'eau de pluie ou de l'eau de ruissellement. La loi d'orientation agricole vient d'être votée par les députés après des milliers d'amendements et des débats parlementaires un peu accélérés. Bon, commençons tout de suite par les points positifs. Un objectif chiffré a été retenu en termes d'agriculteurs, de nombre d'agriculteurs, qui, bien qu'il manque d'ambition, a le mérite de donner un petit cap pour 2035, 400 000 fermes et surtout un objectif minimal de 500 000 agriculteurs, agricultrices. Un autre point assez positif, c'est l'exclusion des investisseurs privés du portage foncier initialement prévu et qui nous faisait beaucoup peur, mais il reviendra peut-être par la fenêtre. L'inscription, troisième point, l'inscription du respect du pluralisme dans la mise en œuvre de France Service Agriculture, puisque Macron ne jure que par des France machin chose. Donc maintenant, il y a France Service Agriculture, le nouveau dispositif d'accompagnement des agriculteurs proposé par le gouvernement. Les porteurs de projets pourront s'adresser, malgré le projet initialement prévu, aux organismes de leur choix. Pour le reste, eh bien, il n'est question que de recul, de vagues promesses, dans une loi qui semble portée par les intérêts de l'agro-business. Parmi les reculs, il en est un qui nous concerne de près en Gironde, puisque l'article 17 a introduit des dispositions pour faciliter l'installation de projets d'aquaculture intensive, au mépris de l'environnement, des conditions d'élevage, de la pêche traditionnelle, comme nous l'avons développé sur ces ondes plusieurs fois à propos du projet de Pure Salmon au Verdon. D'autres mesures ahurissantes confirment ce retour en arrière en matière environnementale, par exemple l'arrachage des haies facilitées, les délais de recours face aux projets d'élevage industriel et de méga-bassines dont nous allons parler ce soir rabotés, c'est-à-dire que pour que les citoyens puissent s'opposer à des projets de ferme de 1000 vaches ou de 1000 veaux ou à un nouveau projet de méga-bassines, eh bien les délais de recours seront raccourcis. Et la dépénalisation des atteintes à la protection des espèces, autour notamment d'une clause qui s'appelle celle de agriculture égale intérêt général majeur. Donc l'agriculture étant un intérêt général majeur, d'autres questions vont devenir mineures. On voit bien lesquelles avec ce gouvernement. Une autre confusion entretenue par le gouvernement consiste à dévoyer la notion de souveraineté alimentaire, de cultiver l'ambiguïté, comme le dénonce la Confédération paysanne, avec la souveraineté agricole et énergétique, alors que sur le terrain, c'est pourtant une dangereuse mise en concurrence entre production à vocation énergétique, l'agrivoltaïsme, les panneaux photovoltaïques sur les champs, et la production alimentaire qui se joue. Donc loin d'accompagner les agriculteurs et les agricultrices déjà confrontés aux conséquences du dérèglement climatique et à l'urgence de changer de modèle, l'Assemblée a vendredi dernier acté des reculs dangereux en matière de protection du vivant et de la biodiversité. Et l'espoir est maigre que le passage en Sénat, qui va arriver bientôt, vienne remédier à ces reculs historiques. La maison Sénat ne nous a pas souvent habitués à des avancées de ce côté-là. Ce soir, avec nous pour parler un peu de cette orientation vers l'agro-business et de ces méga-bassines en particulier, et peut-être aussi parler des alternatives à cette agriculture, cette agro-industrie, eh bien deux militants, deux activistes, Angèle.
Bonsoir.
Et Lewaï.
Bonsoir.
Deux activistes d'ANV COP 21 et qui sont en train de concocter un convoi de l'eau au départ de Bordeaux vers les Deux-Sèvres au mois de juillet. Une petite réaction à ce projet de loi agricole ?
Je pense que c'est extrêmement triste et qu'on va vraiment dans la mauvaise direction. Et effectivement, vous avez explicité les grandes problématiques de cette nouvelle loi agricole, mais c'est une loi qui passe complètement à côté de grands enjeux comme le renouvellement générationnel, qui va accélérer à nouveau l'industrialisation de toute notre agriculture, et donc sous couvert de simplification, et donc méga-bassines, fermes-usines, etc. C'est extrêmement triste, je pense, ce qui se passe.
Merci Angèle. Et Louaï, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, c'est comme beaucoup de lois actuellement avec notre gouvernement, en fait, elles sont pour les lobbies, en fait, et pas pour les citoyens.
Ouais. Eh bien, nous allons entrer maintenant dans le détail de cette semaine de l'eau qui va se dérouler au mois de juillet et cet été dans les Deux-Sèvres, qui sera précédée par des initiatives diverses. Peut-être pour commencer, une présentation un peu générale de cette semaine de l'eau par Héloïse, membre de la Cohorde Eau qui prépare depuis de longs mois cette initiative. Nous l'avons rencontrée la semaine dernière et interrogée sur les enjeux de cette semaine.
Oh, bah d'accord.
Bon, on est avec Héloïse, qui est membre de la coordination, qui prépare activement depuis quelques mois déjà le rendez-vous de cet été, la semaine de l'eau du 14 au 21 juillet. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant que le programme s'affine de semaine en semaine, où on en est de cette préparation ?
Eh ben, du coup, on est en train de construire le programme de la semaine donc du 14 au 21 juillet qui aura lieu dans le Poitou et qui sera un moment vraiment important parce que là on est dans une séquence où on a vu après la révolte agricole que le gouvernement est en train de céder sur un certain nombre de choses et notamment de faciliter les projets d'installation pour les réserves de stockage d'eau et notamment la marque Fesneau qui a annoncé récemment 100 nouvelles bassines de plus. Et en fait, ce qu'on voit dans les faits, c'est que leur projet patine. Il y a quand même énormément de doutes et de ruptures même à l'intérieur des porteurs de projets, avec des désertions, avec des gens qui s'inquiètent de l'explosion des coûts de sécurisation, etc. Donc on sent que c'est justement ce moment, cette séquence un peu difficile où en fait, il ne faut pas lâcher et continuer ce combat malgré les annonces médiatiques. Dans les faits, en fait, il y a 15 bassines qui ont été annulées juridiquement très récemment et 15 autres qui ont été mises hors d'état par
désarmées.
et donc voilà, donc là le mouvement continue à dire que les bassines ne se feront pas et que c'est hyper important qu'elles ne se feront pas parce qu'on sait que si elles se font à cet endroit-là du territoire, ensuite ce sera étendu sur l'ensemble du territoire et puis ce sera un modèle qui va s'imposer partout en France. Donc du coup pour cette prochaine mobilisation, on attend beaucoup des milliers de personnes qu'on va accueillir pendant toute une semaine sur un village de l'eau que les personnes, les collectifs pourront rejoindre notamment via des convois. Donc il y a eu un appel à constituer des convois de différentes régions de la France et puis même on a des camarades d'Allemagne, de Belgique, d'Italie qui vont aussi constituer des convois pour montrer en fait comment là il y a une solidarité aussi qui vient de partout en France et d'ailleurs converger dans le Poitou. partout.
Et il y en a un qui partira de Bordeaux.
Et il y en a un qui partira de Bordeaux. Voilà. Voilà, l'idée, c'est que ces convois puissent être en partie pris en charge de manière autonome et venir rejoindre la mobilisation. Donc, il y a un guide qui circule normalement pour appeler à la constitution de ces convois et donner plein d'outils pratiques pour aider à les constituer. Et puis, donc, du coup, à partir du mardi, le camp sera a priori opérationnel pour accueillir un certain nombre de discussions et d'activités. L'idée, c'est qu'on puisse faire un certain nombre de formations à la fois sur les enjeux de fond, donc voilà, sur la question de l'eau, des terres, de la question du foncier, mais aussi des formations à l'action, la question des armes, de la police, qu'est-ce que c'est faire des manifestations de désobéissance civile de masse, où il y aura aussi voilà des gens avec des cultures politiques différentes qui viendront partager des pratiques, des stratégies, notamment des gens de Ende Gelände en Allemagne. Enfin voilà, il y aura un certain nombre de formations aussi pour nous outiller à comment on construit des mobilisations massives qui portent des gestes de désobéissance civile. Il y aura des formations juridiques, des formations sur les questions de soins. Et puis, il y a une grosse programmation politique qui s'est construite collectivement avec un certain nombre de personnes, de collectifs qui participent à la Coordo. L'idée, c'est quand même de repartir de partir du plus local et du plus spécifique, donc les bassines dans les Deux-Sèvres, progressivement de remonter en fait le fil que nous invite à remonter l'infrastructure de la méga bassine pour comprendre en fait de quoi elle est le symptôme d'une filière agro-industrielle qui est notamment celle de la céréaliculture intensive et notamment du maïs, et qui a en fait ses infrastructures, ses acteurs, ses logiques du plus local à l'international, quoi. Et donc l'idée, c'est de déplier petit à petit cette pelote-là, donc la pelote de l'agro-industrie, avec des regards et des acteurs très locaux, et puis aussi des regards internationaux, avec un dialogue croisé en fait entre des situations locales et des situations internationales, et puis aussi au-delà de la question des bassines et de la filière agro-industrie, enfin du complexe agro-industriel, il y a aussi l'idée d'ouvrir aux enjeux de l'eau qui sont connexes quoi à la question des bassines, mais qui sont aussi tous les grands enjeux de l'eau, donc la question de l'embouteillage, de la qualité de l'eau, de la préservation des milieux, des grandes infrastructures hydrauliques, des barrages.
Alors tout ça, ce sera sous forme de table ronde, de débats, de rencontres.
Ouais, ce sera sous forme de grandes. Donc on aura une grande scène avec une grande tribune où il y aura des tables rondes et des interventions quasiment tout au long de la journée.
Et à partir de mardi 16.
Voilà, et donc on aura des temps de plénière qui seront structurés en grand bloc thématique, donc avec un gros bloc sur la question de la qualité de l'eau, de la pollution des nappes, de l'hydrologie régénérative. Un gros bloc sur la question des grandes infrastructures hydrauliques, des barrages, de l'hydroélectricité, de tout l'extractivisme lié à ces projets-là. Un gros bloc aussi sur un focus géographique sur le bassin du Jourdain, parce que ça nous paraissait aussi intéressant de parler d'enjeux internationaux et aussi comment l'eau, elle est aussi l'objet de conflits, enfin elle devient aussi vraiment une arme de guerre contre des projets d'autodétermination des peuples. Donc là, notamment dans le bassin du Jourdain, on parlera du Liban, on parlera de la Palestine.
Et du Golan.
Et du Golan et de l'apartheid de l'eau. Et puis, un gros bloc sur la méga-bassine et sa filière, où là, on va plutôt déplier les enjeux agricoles autour des modèles agricoles, de la souveraineté alimentaire, de la question des exportations, la question des traités de libre-échange avec la Confédération paysanne et la Via Campesina. Et puis, il y aura aussi une journée qui sera vraiment dédiée aussi aux alternatives, à la fois aux alternatives sur les questions d'hydrologie, d'hydrologie régénérative, et puis sur les alternatives agricoles. Donc, il y aura une grande place qui sera donnée à nos camarades de la Confédération paysanne, de l'atelier paysan, sur les modèles agricoles alternatifs, parce que la question de l'eau, elle est quand même... Enfin, ça nous semblait important de remettre la question agricole aussi au centre cet été, notamment après la séquence qu'on a connue cet hiver et ce printemps de la de la Fronde agricole. Et puis, il y aura, en parallèle de ça, des petits barnums où on aura un certain nombre d'ateliers sur des thématiques plus spécifiques et notamment aussi des AG de lutte, comme on avait connu un peu au Larzac l'année dernière, où il y aura un certain nombre de coalitions, de coalitions sur les fermes-usines, sur les projets photovoltaïques, sur... les cantines aussi qui nourrissent les luttes et qui auront des temps aussi d'élaboration et d'assemblée dans des espaces plus restreints qui seront plus des espaces de travail. Et puis dernière chose, il y aura aussi un certain nombre de délégations internationales. Donc là, à ce stade, je ne sais pas te dire exactement combien et de où on aura des camarades, mais il y aura quand même un certain nombre de personnes qui viendront de loin. Et donc il y a l'idée aussi d'avoir un espace de travail plutôt international pour voir comment on peut élaborer aussi des formes de solidarité à l'international et qui auront des temps de restitution aussi le dimanche. Tu
as évoqué les cantines, donc il y aura de quoi se restaurer sur place, il y aura de quoi camper, on pourra camper sur place. Il faut prévoir d'aller ailleurs ou...
Non, on pourra camper sur place. On sera accueillis a priori dans des très bonnes conditions matérielles où on pourra camper, où on aura... Voilà. Et puis, il y aura même la possibilité de demander aussi des hébergements si jamais il y a des personnes pour qui c'est compliqué de camper parce que, voilà, a priori, on sera plutôt dans une ville qui nous accueille. Donc, il y aura aussi possibilité d'accueillir chez l'habitant des personnes qui ne pourraient pas camper, quoi.
Et il y aura donc des sanitaires, il y aura... Tout ce dispositif est prévu pour plusieurs milliers de personnes.
Oui, voilà, on va vraiment être dans des conditions autorisées, légales, pour monter un camp qui soit le plus accueillant possible, voilà, avec des concerts, des spectacles. A priori, il y aura aussi une programmation culturelle jeunesse, un espace bambinerie. Voilà, donc a priori...
Pour les jeunes enfants.
Pour les jeunes enfants.
Et tu peux toujours pas nous dire le lieu exact.
Je sais pas, en vrai. Je sais pas si j'ai le droit.
Voilà, donc on le garde, ce sera la surprise du dernier mois, j'imagine.
Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et donc le village de l'eau, donc ce sera le début de la semaine, l'arrivée des convois, puis le village de l'eau jusqu'au jeudi soir, jusqu'au vendredi. Et le vendredi, on partira tous et tout ensemble en action à partir du vendredi. Donc les journées d'action, elles auront lieu le vendredi et le samedi pour ensuite tous se retrouver sur le village de l'eau le samedi soir et le dimanche pour clore la mobilisation.
Oui, alors ces journées d'action, elles auront quel type de forme ?
Ces journées d'action, donc l'idée c'est que ce soit des mobilisations de masse, de désobéissance civile de masse, avec l'idée là de, donc comme je disais tout à l'heure sur la programmation, de continuer à enfoncer le clou sur la question de la bassine en elle-même, mais aussi de visibiliser en fait tout ce qu'on appelle le système bassine, c'est-à-dire en fait tout le système que la bassine vient alimenter, et donc voilà de réfléchir aussi à comment on pourrait venir visibiliser d'autres infrastructures qui sont les infrastructures du système bassine et du système agro-industriel. Et donc, ce sera la surprise, mais donc on aura des actions variées avec des formes d'implication diverses.
Des niveaux
d'intensité divers avec variété de modes d'action possibles. Mais voilà, en continuant à faire ce lien entre la bassine et puis le système, la filière qu'elle vient soutenir, quoi.
Eh bien, merci à Héloïse de la Cordeau, donc qui prépare cette semaine d'action au mois de juillet, c'est la semaine de l'eau. Donc vous, le Y, Angèle qui est ici, vous êtes bordelais, activiste bordelais, et donc vous avez répondu à l'appel d'organiser un peu partout en France et même à l'étranger des convois qui vont se diriger vers les Deux-Sèvres cet été, au mois de juillet. Est-ce que vous pourriez nous présenter le dispositif que vous êtes en train d'imaginer? Parce que je pense que vous n'avez pas fini la préparation, mais vous êtes en cours d'élaboration.
Oui, oui, comme tu dis, on est en pleine construction du projet actuellement. On a déjà fait trois réunions et d'autres arrivent par la suite. La prochaine sera d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, le 12 juin. C'est à la Halle des Douves à 19h. Donc oui, on a décidé d'organiser un convoi de l'eau à vélo de Bordeaux jusque dans les Deux-Sèvres. Pour cette manifestation, en fait, organisée par Bassine Non-Merci, les soulèvements de la terre de cet été. Pourquoi on a choisi de faire ça, en fait? Ce convoi de l'eau, il s'inscrit plus largement dans ce qu'on appelle la lutte contre les grands projets inutiles. Il y en a de nombreux, la LGV Bordeaux-Toulouse, l'autoroute A69 à Castres, les Mégabassines, Pure Salmon, on en parlait tout à l'heure, et bien d'autres encore. Ces projets, ils enrichissent une minorité de grands industriels au détriment du bien commun. Et ils vont à l'encontre en fait, des alertes du GIEC, des scientifiques sur le climat. Et si on laisse faire tous ces projets... Bah, quel avenir on va laisser à nos enfants et à nous-mêmes. Et voilà, donc nous, on a décidé de lutter. On est des militants, en fait. Moi, je fais partie d'ANV COP21 Gironde. C'est un mouvement de désobéissance civile. On a envie de continuer à lutter en fait pour un avenir qui nous correspond et qui n'est pas juste pour quelques personnes, quelques gros industriels en fait. Et donc ce projet de convoi à vélo, il répond très largement en fait à cette problématique. Alors c'est quoi l'objectif de ce convoi à vélo ? C'est à la fois de mobiliser un maximum de personnes pour se rendre à l'événement, parce que à Sainte-Soline 2 il y avait 30 000 personnes. On espère en fait qu'il y aura encore plus de personnes, et à travers ce convoi on va essayer d'amener plein de personnes de cette métropole en fait bordelaise, et en plus en attrapant quelques-uns sur le parcours quoi, pour qu'on soit le plus nombreux possible de toute la France à travers tous les convois qui vont s'organiser pour être le plus nombreux possible sur cette manifestation.
Oui, l'objectif n'est pas de partir tout seul et puis d'arriver tout seul, mais vraiment de rallier du monde chemin faisant, avec peut-être des actions aussi sur le long du chemin.
C'est rigolo que tu dises ça, parce qu'au départ... Au tout départ, j'ai vu cette manifestation, je me suis dit, je pars, et puis je partais avec une personne, et puis on s'est dit, on y va, de toute façon, nous, on y va à vélo, et quoi qu'il en soit, on part tous les deux et on y va. Et puis on s'est dit, c'est bête, quoi, pourquoi on irait qu'à deux, pourquoi on n'essaierait pas de rallier plein de monde avec nous ? Et donc, on a commencé à en parler au sein de notre collectif ANV COP21 Gironde. On a validé le fait d'organiser une vélorution. Et puis, au départ, on a pensé qu'à nos membres, en fait, en se disant, on va l'organiser ensemble. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bête, quoi. Pourquoi que ANV COP21 ? Il y a plein de militants et plein d'individus qui sont intéressés. Et allons-y ensemble. Et donc, on a ouvert complètement ce projet, en fait, à tout le monde.
D'accord.
Et puis, si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi vraiment un intérêt avec les diverses étapes de rencontres avec plein de gens de territoires divers, aux réalités diverses, et vraiment de temps d'échange, de partage. Le WAI va expliciter un peu plus comment on va s'organiser, mais il y a énormément de temps de partage, et ça, c'était très important, et de solidarité entre différents collectifs, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir, et c'est hyper intéressant de rencontrer des gens très, très différents. Donc, il y avait aussi cette optique de rencontre tout au long du parcours.
Oui, voilà, c'est un objectif, un objectif aussi, c'est de réunir tous ces collectifs, en fait, et ces personnes autour d'un projet commun, et créer du lien, en fait. Et oui. Ça, c'est important, et c'est ça qui va... On ne pourra pas gagner si on reste seul dans notre coin. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire, et c'est pour ça que ce convoi vélo, il répond partiellement, mais à cette attente. On répond aussi à la demande, comme tu disais tout à l'heure, de bassine non merci, en fait, c'est d'organiser des convois. Il va y avoir des convois à pied, des convois en tracteur, des convois à vélo. Personnellement, en fait, que ce soit Angèle ou moi, on est nombreux quand même, et nombreuses sur Bordeaux à se déplacer à vélo. C'est à la fois, c'est un outil pour aller. Moi, je vais au travail à vélo, je fais mes vacances à vélo. J'ai une voiture, que j'utilise une fois par mois, c'est très rare, quoi. Et donc, ça nous a paru évident, en fait, de faire un convoi à vélo pour se rendre jusqu'à cet événement.
Et en fait, c'est aussi montrer que les alternatives sont possibles et déjà en marche. Le fait d'y aller en vélo, c'est un acte fort pour dire on peut faire cette grande distance tous ensemble à vélo. Et donc, les alternatives sont en réalité, elles sont un peu sous nos mains, quoi. Et donc, il faut juste maintenant les explorer tous ensemble et creuser un peu le sujet.
Mais dites donc, Bordeaux, les Deux-Sèvres, ça fait une petite distance.
Eh oui.
Oui, oui.
Ça fait combien de kilomètres ?
On est autour de 280 km environ.
Oui. Donc, ça veut dire une sacrée logistique. Les vélos, ils sont avec assistance électrique ou...
Ah non, non, les écolos sont sportifs, attention. Hein.
Alors, ça dépend, en fait. Il y a aussi des personnes... En fait, ça, c'est un projet intergénérationnel aussi. Hein. C'est-à-dire que, voilà, dans les personnes qu'on a actuellement, il y a des personnes... on va dire, on n'a pas d'enfants jusqu'à maintenant encore, mais on va dire de 18 à 70 ans. Et donc, il y a des personnes qui ont besoin aussi d'une assistance électrique. Et voilà, il y aura peut-être aussi quelques vélos électriques. Mais à partir du moment où ils nous accompagnent, eh ben, on va s'adapter.
Vas-y, continue.
Ouais, ouais. Et donc, dans les objectifs aussi qu'on a, bah, c'est de laisser une trace sur notre passage, de notre convoi, c'est-à-dire que, à la fois d'être visible, c'est-à-dire, bon, on va voir comment on va décorer nos vélos, quelles sont les affiches qu'on va avoir sur notre vélo, mais de façon à ce que toutes les personnes qu'on va croiser sur notre parcours, elles s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils font, c'est qui eux, ça permet d'interroger les gens qui réfléchissent en fait sur pourquoi ils sont autant à faire autant de kilomètres à vélo pour rejoindre un projet. C'est important d'interroger les gens. Et puis la deuxième trace aussi, ça va être qu'au cours de notre parcours, je vais en reparler un petit peu après, mais on va essayer aussi d'avoir des actions militantes en fait avec différents collectifs. Je parlais du lien tout à l'heure, de profiter de ces collectifs locaux et de profiter en fait de leur force à eux et d'ajouter la nôtre en fait pour faire quelque chose de commun sur le trajet de notre parcours. Sur notre parcours.
D'accord. Et alors, tu veux finir pour l'organisation là, de ce convoi ?
Oui. Comment il se présente le convoi ? Alors, il y a 6 étapes qui font environ 50 km chacune. On part de Bordeaux. Le premier jour, ce sera le 13-07, c'est-à-dire samedi 13. On partira de Bordeaux pour aller jusqu'à Blaye. C'est une des plus grandes étapes. Elle fait environ 60 km, 65. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera Blaye-Mortagne-sur-Gironde. Donc ça sera le 14 juillet. Ensuite, une autre étape qui sera Mortagne-sur-Gironde-Royan, le 15 juillet. Royan-Marraine, le 16 juillet. Marraine-La Rochelle, le 17. Et La Rochelle-Marais-Poitevin, mais actuellement, on ne sait pas encore où dans le Marais-Poitevin. Donc, ça sera. Donc, on arriverait le 18 sur le village de l'eau et pour participer ensuite à l'ensemble de cette manifestation.
C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. Les braves gens que j'ai nourris sous la contrainte m'ont trahi. Aujourd'hui, mortifie à cause de l'Europe du profit. Mais un jour les fleurs pousseront, toutes les haies y replanteront, et les pommiers fleuriront, ça s'appellera pays berchon. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. Mais d'heure à vous de Paris, car toute gloire est éphémère, et le pouvoir ne dure guère, les gens d'ici l'ont bien compris. Et alors à l'abri du vent, le perché pêcheront en liesse, connaîtront l'éternelle jeunesse, et vivront mi et mi printemps. C'est la faute au gouvernement, si le disparaît des fontaines, c'est la faute au gouvernement, si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au gouvernement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au gouvernement, si plus rien n'arrête le vent.
C'était la chorale La Militante qui nous chantait une version de cette très belle chanson. C'est la faute au remembrement s'il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Avec nous ce soir, Angèle et Lewaï, pour parler donc de ce convoi de l'eau qui va se diriger vers les Deux-Sèvres au mois de juillet. Et Lewaï, tu nous présentais donc cette organisation. Tu as quelques points encore à nous préciser comment s'organise ce convoi.
Oui, oui. Actuellement, notre priorité, c'est de trouver des lieux étapes. Et c'est pas facile parce qu'en fait, on ne sait pas encore si on va être 30, 50, 100. Et donc, c'est notre difficulté actuellement. On en a deux sur les cinq. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on les a trouvés. Et puis, si vous qui nous écoutez, vous avez des idées, on est preneurs, il n'y a aucun souci. On recherche encore des lieux étapes. Actuellement, on a celui de Blaye, on a celui de Mortagne sur Gironde, mais sur Royan, Marennes et La Rochelle, on n'a pas encore nos lieux étapes. Alors, c'est en construction, il y a des choses qui viennent, mais ce n'est pas encore complètement acté. Donc, comment on les a trouvés, ces lieux étapes? En fait, ces deux premiers lieux étapes, c'est à travers notre réseau. Alors, il y a à la fois le réseau de Bassines Non Merci, en fait. En fait, on a créé trois pôles. Un pôle qui s'occupe d'être en relation avec Bassines Non Merci, toujours pour ce sujet des lieux étapes. Un pôle qui s'occupe de contacter les collectivités, en fait, les mairies qu'on va traverser. Est-ce qu'on peut pas être autour d'un stade de foot avec des. À partir sur les stades, il y a des douches. Il y a de l'eau, on les contacte comme ça. Et puis un pôle qui s'occupe en fait de se mettre en relation avec la Confédération Paysanne. Parce que en fait, la Confédération Paysanne, elle est souvent.
Elle est partie prenante de la semaine.
Et oui. Voilà, elle est partie prenante de la semaine. Et on sait que c'est des personnes qui vont certainement pouvoir nous accueillir parce qu'ils ont cette volonté aussi, ils sont partie prenante, comme tu dis. Et donc, on a contacté la Confédération Paysanne Gironde et puis celle de Charente-Maritime, Charente et Charente-Maritime. Et on a eu des retours positifs, en fait. Alors, on en attend encore d'autres. Mais au niveau de la Confédération Paysanne Gironde, on a deux paysans, en fait, qui nous ont... Alors, un qui va nous accueillir à Blaye, enfin, à Saint-Martin-la-Caussade, en fait. Et il peut nous accueillir
que nous connaissons sur la Clé des Ondes, puisque je l'ai déjà interviewé, c'est Vincent Lamoulaire, actuel porte-parole de la Conf Girondine.
Voilà, c'est ça. Et donc lui, il peut nous accueillir jusqu'à 30 personnes. Et puis, ça c'est déjà chouette, sachant que nous on a des conditions. En fait, il faut savoir qu'on va faire du vélo en plein été. Donc nos conditions, c'est d'avoir de l'ombre. Sur le terrain, en fait, au moins pas obligatoirement pour les tentes, mais de l'ombre où on peut se poser, où on peut manger, d'avoir de l'eau, parce que c'est important. Et puis aussi, il y a toute la partie WC, en fait, comment on s'organise pour pas détruire le champ, et donc ça, c'est des conditions qui sont nécessaires, en fait, pour qu'on puisse être accueilli. Donc lui, il va nous accueillir sur son terrain, même chez lui, je crois, autour de sa maison. Et donc merci à lui déjà. Et puis ensuite, on a eu un autre contact en fait c'est Vincent justement qui nous a donné un contact sur Mortagne. Ce contact nous a dit non, parce qu'au niveau je fais de la luzerne et à cette période de l'été ma luzerne ne sera pas fauchée, ce sera pas possible. Mais par contre, je connais quelqu'un qui peut certainement vous accueillir. Et donc, cette personne, on s'est mis en relation avec. Et elle a une grande ferme avec des vergers, des champs. Des toilettes, elle a deux toilettes sèches, elle a trois points d'eau, et en fait elle peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Merci à elle en tout cas, et c'est chouette. Et donc maintenant, on a ces deux lieux étapes sûrs. Et ensuite, on est en construction pour trouver les autres. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez
des bonnes idées
sur Royan, sur Marennes et sur La Rochelle. On est preneurs. Sachant que quand même, la Confédération Paysanne de Charente-Maritime et Charente se réunit le 3 juin et ils vont parler de notre projet en fait aux différents paysans, et je devrais avoir un retour par la suite, on est un peu dans l'attente par rapport à cette partie-là.
Très bien, très bien. Alors Angèle, toi tu voulais nous parler de la philosophie plus globale peut-être de ce projet, quelle est votre démarche dans tout ça?
Oui, tout à fait. Donc, on avait commencé un petit peu à l'aborder au début en parlant d'abord cet aspect de tisser des liens avec le territoire, avec des personnes diverses et variées, d'échanger. Puis un autre aspect qu'on a un petit peu abordé également, qui est celui de débattre, d'imposer un véritable questionnement autour de ces méga-projets dont font partie les méga-bassines. Et je voulais rappeler un petit peu quelques chiffres parce qu'on oublie ou on ne sait pas forcément ce que c'est très bien une méga-bassine. Mais une méga-bassine, c'est vraiment un gigantesque ouvrage de stockage d'eau, donc avec des grandes bâches.
En plastique.
Donc, en plastique, totalement artificiel, totalement imperméabilisé, qui va s'étendre en moyenne sur 8 hectares. Donc 8 hectares, c'est une dizaine de terrains de foot. Donc c'est énorme. C'est des ouvrages, des méga infrastructures qui sont absolument pharaoniques. Et donc c'est très différent d'une retenue d'eau collinaire. Vous l'avez mentionné au début, il faut bien faire la différence entre les deux. Puisqu'une retenue d'eau collinaire, ça va simplement être d'eau de pluie. Alors que les méga-bassines, ça va être, on va aller véritablement puiser dans les nappes phréatiques. Donc en principe l'hiver. Mais malgré tout, avec les diverses vagues de sécheresse, etc., et la pression qu'il y a aujourd'hui sur l'eau, ça pose véritablement des enjeux. Ça impacte également la biodiversité aux alentours, notamment les zones humides, qui sont des puits de carbone essentiels aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique.
Et le marais Poitevin, excuse-moi de t'interrompre, oui. C'est la deuxième zone humide de France. Donc la mettre en danger, c'est assez catastrophique.
C'est absolument, absolument catastrophique. Puis il y a un autre enjeu aussi qu'on oublie, mais c'est que cette retenue d'eau qui va être à la surface, il va y avoir des gros phénomènes d'évaporation. Donc on ne sait pas très bien mesurer combien d'eau s'évapore, mais selon CNRS, c'est quand même entre 20 et 60%. Donc c'est absolument énorme par rapport à de l'eau qui serait stockée dans les nappes phréatiques. Entre 20 et 60%, c'est absolument énorme. Et puis tout ça, il ne faut pas oublier que ça nourrit ce système agro-industriel, donc notamment, et Louise en parlait, mais ça va être des champs de maïs pour l'élevage notamment. Et puis, il y a autre chose, un autre aspect dont on parle peu, mais ça empêche de penser d'autres modèles agricoles. Ça empêche de penser un peu le futur, parce qu'on s'enfonce dans cette fuite en avant qui n'en finit plus. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a aussi un aspect dont on parle peu, mais c'est que ces méga-bassines, elles servent très peu d'agriculteurs, au final. On entend comme si l'agriculteur était d'une seule voix pour ces méga-bassines, mais j'avais trouvé le chiffre que seulement 7,3% des agriculteurs étaient irrigués en 2020, donc c'est assez peu. Peu pourront être irrigués en plus, puisqu'on est face à une pression de l'eau qui est absolument énorme. Et donc, il y a plusieurs scientifiques, en réalité, il y a un consensus assez large dessus, pour dire que c'est une maladaptation au changement, face au changement climatique. Et donc, le modèle agricole a vraiment besoin d'évoluer. Et donc j'aimerais bien un peu prendre peut-être de la hauteur par rapport à ces méga-projets hyper destructeurs. Et nous, c'est le débat vraiment qu'on veut imposer, à se dire, est-ce que c'est ça qu'on veut pour le futur? Parce qu'aujourd'hui, il y a en réalité très peu de débats. Les méga-bassines, en réalité, avant Sainte-Soline, c'était même très peu connu, à part par quelques agriculteurs et la profession. Donc est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quels sont les coûts? Quels sont les bénéfices? Les calculer, puisque les bénéfices, ça va être quelques agriculteurs qui vont faire une agriculture hyper industrielle et puis les grosses firmes agroalimentaires, agro-industrielles. Mais quels sont les coûts en face? Les coûts sociaux pour les autres agriculteurs, les coûts environnementaux qui sont énormes. Donc il y a vraiment énormément de coûts et donc il faut vraiment prendre en considération tout cela dans la balance. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat ouvert et large dessus. Donc il y a vraiment une importance à ce qu'on se saisisse de ce sujet. Et donc à travers notre convoi avec, on espère, beaucoup de ce qu'on appelle artivisme, c'est-à-dire énormément d'art, de couleurs, de messages, imposer ce débat donc de différentes formes. Ça peut être un débat mouvant, ça peut être des discussions enflammées ou pas avec les gens qu'on rencontrera, mais imposer ce débat sur la viabilité ou pas de ce modèle. Est-ce que c'est souhaitable aussi? Et j'aime bien mobiliser, quand on parle de ça, un auteur qui vient du coin, qui s'appelle Jacques Ellul, et qui parlait de...
Bordelais.
Oui, Bordelais. Professeur, éminent professeur. Et qui parlait de non-puissance. Donc, il le différenciait de l'impuissance. La non-puissance, c'est on est capable de... Donc, c'est-à-dire, techniquement, on est capable de faire ces méga-bassines. Il y a des porteurs financiers, il y a des porteurs politiques. on est capable de les faire, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est souhaitable de les faire pour tous les aspects que j'ai énoncés avant, sur l'aspect social, sur l'aspect écologique? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est viable face aux limites planétaires et tous les rapports du GIEC et tous les rapports plus larges et très très alarmants? Est-ce que c'est souhaitable? Et donc nous, c'est cette question qu'on veut porter à travers notre convoi, la viabilité de ce modèle, quoi.
Oui, oui. L'autre question qui m'est à cœur, moi, c'est celle des pesticides. Et donc, aux alentours de La Rochelle, là où vous allez passer, tout près du Marais Poitevin, La Rochelle vient de fermer 15 captages d'eau parce qu'ils sont pollués par les pesticides. C'est-à-dire que l'eau devient de plus en plus rare. La région est en déficit globalement de millions de mètres cubes d'eau chaque année. Mais en plus, l'eau qui nous reste se pollue et est polluée par... cette agriculture intensive au point que l'on ne peut plus la boire. Et ça, ça devient quand même relativement préoccupant.
Oui, ben, d'ailleurs, par rapport à ça, sur notre convoi, c'est un convoi de l'eau, donc on va aussi traiter des problématiques de l'eau de façon plus générale. Et on a été interpellé, par exemple, par Tchernobyl, en fait, par rapport à la problématique de l'eau sur les centrales nucléaires et du réchauffement de l'eau dans les centrales nucléaires et des impacts que ça peut avoir sur le côté, sur la nature. Mais aussi, on a été interpellé par alerte pesticides sur une zone, sur une vallée qui s'appelle la vallée du Moron, et à côté de Prégnac et Marquant. Et il est possible, en fait, c'est un projet qui est en construction actuellement, mais qu'au cours de notre convoi, nous nous arrêtions, en fait, dans cette vallée qui est Natura 2000, en fait. Et donc, tu parlais d'eau dont la qualité, en fait, se détériore au fur et à mesure du temps par rapport aux projets industriels, par rapport à tout ce qu'on autorise, en fait. On est en train de tuer progressivement la vie, en fait, une méga-bassine, hein. C'est quoi? C'est de l'eau qui stagne, en fait. Hein. C'est... Autant dans une nappe phréatique, l'eau, elle vit, elle bouge, elle se déplace. Voilà, il y a des bactéries, il y a des minéraux, en fait, qui s'y raccrochent, quoi, en fait. C'est de l'eau vivante. Alors que dans une mégabassine, c'est de l'eau qui stagne et c'est une eau qui perd sa vie, en fait. Oui. Et,
quand elle n'est pas empoisonnée aux cyanobactéries.
Quand elle... Voilà, en plus. Et donc, on s'aperçoit que de plus en plus sur les territoires, en fait, ben, l'eau, elle est de plus en plus polluée. Quand on commence à faire des analyses, il y a eu le cas récemment avec Bordeaux-Lac, je crois, où il y avait des grosses problématiques liées à l'eau. Le lac de Bègle aussi, il y a eu des problématiques liées à l'eau. Et là, en fait, sur notre passage, en fait, à Prégnac et Marquant, il y a une zone, en fait, avec une étendue d'eau et tout un ensemble Natura 2000 qui est... Enfin, c'est une belle zone, en fait. C'est une zone où, il y a des années, en fait, les gens, ils y prenaient plaisir, ils s'y baignaient. Et il s'avère que là, actuellement, le syndicat a fait des analyses et il s'avère que l'eau, elle est complètement polluée, en fait. Elle est polluée à la fois au niveau bactériologique, mais au niveau chimique. Et donc, nous, on va certainement s'arrêter, en fait, sur ce lieu, en fait, pour montrer, en fait, que nos eaux, il faut les protéger. C'est la vie, en fait, et que l'eau, elle appartient pas à une petite quantité de personnes, en fait. Et on se pose la question de est-ce que l'eau doit appartenir à quelqu'un ou est-ce qu'elle doit appartenir à personne, en fait. Et l'eau, c'est un bien... Enfin, c'est pas un bien, justement. Ça appartient pas. C'est un commun, quoi. Et ça, c'est important. Et ça fait aussi partie, au niveau philosophique, quelque part, de notre convoi, de véhiculer une autre façon de penser. Et qu'est-ce que c'est que ces eaux, en fait? Qu'est-ce qu'on leur donne? Il y a des gens, en fait, qui essaient de lutter actuellement pour... parce que l'eau, une rivière, par exemple, elle n'a pas d'entité légale. Et donc, elle ne peut pas porter plainte contre un pollueur, parce qu'en fait, elle n'a pas d'entité juridique. Et ça, c'est peut-être à penser aussi, c'est de se dire, la mer, la nappe phréatique, le fleuve, c'est une entité, en fait, et cette entité, elle a un droit. Et ce droit, elle a le droit de ne pas être polluée, elle a le droit de continuer à vivre.
Et d'ailleurs, il y a des travaux assez nombreux de réflexions qui sont menées pour donner des droits juridiques. Par exemple, je pense au Ciron, notamment, qui traverse la vallée du Siron, parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est une région qui est extrêmement riche en eau. Aquitaine vient de Aqua, région des eaux, et on a notamment le bassin Adour, Garonne, qui est très très important. Et donc il y a beaucoup de travaux et de réflexions qui sont menées autour de ça, et il faut leur rendre hommage, il faut continuer dans cette voie. Et j'aimerais parler, m'éloigner deux minutes un petit peu des méga bassines pour parler un petit peu de la LGV, qui est une autre thématique qui nous préoccupe beaucoup, notre collectif.
Mais qui est bien concerné par les questions d'eau.
Et oui,
aussi.
Qui est très très concerné par les questions d'eau, parce qu'il va notamment traverser cette fameuse vallée du Siron dont je parlais, qui va artificialiser énormément. Et c'est une vallée qui est très spéciale et très singulière, puisque à certains endroits, il y a des microclimats. Il y a de nombreuses zones humides et il y a des microclimats. C'est-à-dire que très concrètement, il fait moins chaud à certains endroits, car il y a des hêtraies, il y a vraiment une biodiversité assez incroyable. Et donc cette LGV qui va complètement macérer certains territoires, qui va traverser de nombreuses zones Natura 2000, autour de 8. Et donc c'est aussi un projet contre lequel on lutte, et qui est de la même trempe au final que les méga-bassines, ce genre de méga-projet pour gagner quelques minutes. Donc pareil, si on élève un peu la conversation et le débat philosophiquement, est-ce que gagner quelques minutes, encore une fois, le coût-bénéfice, ça vaut tant de destruction et la mise en danger de cette ressource commune qui est l'eau, et qui nous est si chère et si importante à tous et toutes.
Bravo Angèle. Et oui, Loaï, tu veux compléter ?
Pas particulièrement par rapport à ce que vient de dire Angèle, parce que je crois que...
Si, peut-être ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a une mobilisation des soulèvements de la Terre, dont peut-être qu'on reparlera ici, le 12-13 octobre, qui se prépare autour de cette LGV, donc qui nous concernera le territoire bordelais, élargi, néo-aquitain, très très directement. Voilà, c'est à venir, ça se prépare.
Et donc, tu as évoqué, c'est Angèle qui a évoqué la question des droits juridiques des fleuves. Donc, le 15 juin, donc la CEPENSO, qui est une association girondine bien connue, qui avait voulu attaquer l'État par rapport à un projet de gravière dans la Gironde, dans l'estuaire de la Gironde, a organisé depuis avec l'association Wild Legal et Marine Calmée un procès fictif de la Garonne, et avec les étudiants de Marine Calmée. Donc ce procès fictif de la Garonne aura lieu le 15 juin. Je pense que c'est à Darwin, mais je ne suis pas sûr. Et donc l'idée de ces deux, à travers ce procès fictif, c'est justement d'évoquer cette question des droits des fleuves pour la Garonne, comme on peut l'évoquer aussi pour le Siron dans la région. Et comme cela a déjà été gagné pour certains fleuves sur Terre, notamment il y a un fleuve en Corse qui est en passe d'avoir sa reconnaissance juridique, le Tavignanou. Voilà, donc il y a quelques fleuves qui ont commencé cette procédure, et c'est vrai que c'est une démarche qui paraît comme ça un petit peu intellectuelle et un petit peu éthérée, mais c'est pas vrai, elle est fondée, elle a beaucoup de sens pour pouvoir ressourcer, reposer peut-être le débat écologique, lui redonner de la profondeur. Et c'est vraiment une question intéressante.
Mais en réalité, dans de nombreux pays, il y a une reconnaissance, je pense notamment à l'Amérique du Sud, avec toute la philosophie du buen vivir, il y a une reconnaissance assez forte et juridique, puisque c'est rentré dans la constitution de certains pays, oui, de la Pachamama, de la terre et des éléments. Et c'est vraiment une réflexion à mener, et je crois que le droit environnemental a aussi un rôle à jouer, véritablement. Donc nous, nos moyens d'action, ça va être la désobéissance civile, mais il y a plein d'autres moyens de s'engager, et le droit environnemental et ses évolutions est vraiment, je pense, fondamental dans la lutte. Et donc tous ces travaux autour de la reconnaissance d'éléments vivants, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental et d'essentiel. Oui.
Ouais, puis en fait, on peut pas se battre en désobéissance civile. Enfin, il faut que tout le monde soit ensemble. C'est-à-dire que il faut que il y a le côté juridique, il y a le côté militant, il y a le côté politique. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui peuvent faire évoluer la situation. Et on voit que, bon, actuellement, on est quand même dans une France où c'est de plus en plus difficile, en tout cas au niveau militantisme, parce que il y a quand même une répression qui s'accentue. Ça fait quand même longtemps qu'on est au sein d'ANV, on a fait des actes qui nous ont amenés des fois à faire des gardes à vue.
En décrochant des portraits de Macron, par exemple.
Voilà, mais ça, on pouvait le comprendre, éventuellement. Mais là, récemment, enfin, depuis le début de l'année 2024, il y a des gens qui se sont retrouvés en garde à vue pour faire du collage d'affiches dans Bordeaux. Et là, on commence à se dire, mais ça veut dire quoi, en fait?
Oui.
Ça nous surprend et on se rend compte de cet état qui devient de plus en plus policier, en fait. Et c'est, voilà, être militant aujourd'hui, c'est prendre peut-être plus de risques qu'il y a 6 ans, 7 ans, 10 ans, en fait. Et plus ça va, plus c'est difficile. On a bien vu que Darmanin a essayé de dissoudre les soulèvements de la Terre. C'était quelque chose quand même qui était assez surprenant. Enfin, surprenant, si je me mets pas à la place de Darmanin.
Oui.
Surprenant dans le sens où ce sont des citoyens qui essaient de défendre un bien. Enfin, qui essaie de défendre l'eau, la nature, l'avenir de leur avenir, l'avenir de leur enfant, et ils se retrouvent attaqués et de façon à les dissoudre comme des mouvements qui pouvaient être très violents ou terroristes. D'ailleurs, oui. Le langage a changé, la symbolique a changé. Maintenant, on est devenu des éco-terroristes.
Oui.
Et ça, c'est important en fait au niveau de la symbole, c'est que on est passé de allez, les écolos, éventuellement, il y a longtemps, c'était les écolos, bon, voilà. Et là, c'est des éco-terroristes. Et certaines personnes sont jugées comme des terroristes.
Que des brigades fascistes peuvent défiler dans les rues de Paris avec des saluts hitlériens et des croix gammées peintes sur le front. Donc,
Et je pense que cette criminalisation de la désobéissance civile, qui est de plus en plus violente, dont parle le Y, elle est extrêmement grave, parce qu'en réalité, si on regarde un peu historiquement ce qui s'est passé, il y a énormément de droits, voire la majorité qu'on a acquis grâce à la désobéissance civile. Et la désobéissance civile, ça n'a pas pour but, pour parler vulgairement, de semer la pagaille, mais plutôt de questionner la légitimité de la légalité et faire avancer la légalité en fonction de la légitimité et ce qu'on croit juste en fonction des époques. Et donc je pense que c'est vraiment, la désobéissance civile est vraiment très très importante. Après, désobéissance civile, ça englobe énormément de choses aux réalités très diverses, mais cette criminalisation très poussée, je pense qu'elle est très très grave et qu'elle questionne sur la démocratie et sur l'état de notre démocratie.
Oui. Eh bien, merci Angèle, merci Le Y, donc pour cette présentation de votre convoi. Donc, je rappelle l'appel que vous faites effectivement à avoir des points de relais sur tout au long de votre trajet à Marennes, La Rochelle, etc. Et puis l'appel à ce que l'on vous rejoigne. Donc, et vous faites une prochaine réunion le 12 juin à la Halle des Douves à 19h. Donc, amis auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à vous joindre à ce joyeux convoi pour défendre l'eau et puis passer des vacances intelligentes aussi, c'est peut-être...
Oui, c'est ce que tu dis. C'est à la fois un acte militant, mais c'est aussi prendre du plaisir. Moi, j'ai pris une semaine de vacances pour ça, et j'ai envie d'y prendre plaisir à aller rejoindre cette manifestation. Quoi.
Ah, ça va être joyeux, on le garantit.
Allez, rejoignez-nous, et puis vous verrez bien comment ça va se passer.
Eh bien, bon convoi.
Allez, merci.
Merci à Nathanaël pour la technique de cette émission et à la semaine prochaine.